Bienvenue sur Provision de vie avec Fabien Végel.
Ce programme vous donne les clés pour votre épanouissement avec une approche originale fondée sur la Bible qui offre des principes intemporels et efficaces pour qui les applique.
D'autres ressources vous sont offertes sur le www.provisiondevie.com.
www.provisiondevie.com.
Provision de vie, nous investissons en vous.
Nous investissons en vous.
On pourrait parler un petit peu de renaître à l'être. On pourrait parler, pour être plus biblique, de ce que Jésus en fait veut vraiment nous dire quand il parle d'être né de l'Esprit. Parce que, et on va regarder, vous pouvez ouvrir dans Jean chapitre 3, et je vais vous amener une lumière un peu différente sur la nouvelle naissance aujourd'hui, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais dans nos milieux, on met beaucoup l'accent sur la nouvelle naissance et sur l'enseignement de Jésus dans Jean chapitre 3, mais on n'en a pris qu'une toute petite partie en réalité. Que Jean chapitre 3, Jésus nous parle certes de ce que nous avons désigné comme étant la nouvelle naissance, mais elle va beaucoup plus loin que ce que nous en avons fait. Aujourd'hui, nous disons, voilà, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, tu entends le message, on t'appelle à venir vers Jésus, tu viens, tu fais une prière, et puis on dit, ça y est, tu es né de nouveau, tu as fait une prière, quelque chose s'est passé dans ton esprit. Alors, c'est peut-être vrai, mais il y a beaucoup plus que ça. Jean chapitre 3, verset 3, Jésus répond donc à un religieux, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne donc point que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc souvent on prend ça et on dit aux gens, voilà, il faut naître de nouveau, il faut venir à Jésus, il faut faire une prière, et puis le Saint-Esprit va te toucher ou va venir en toi, et puis ça y est, tu es né de nouveau et tu marches avec Dieu. C'est une partie, mais ce n'est pas tout. Jésus dit, si quelqu'un ne naît de nouveau d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il rajoute, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et nous avons besoin de naître de l'esprit. Et je pense que nous sommes encore loin. Merci Seigneur pour le début de révélation que nous avons. Mais si nous cherchons, que ce soit dans des livres ou même sur Internet, on commence à trouver certaines explications sur ce que c'est que l'esprit, l'esprit de l'homme. Même les chrétiens commencent à accepter qu'effectivement il y a le Saint-Esprit, mais nous sommes un esprit, puisque la Bible parle aussi de l'esprit de l'homme. Nous avons une âme et que nous vivons dans un corps, tout ça. Et on trouve certains enseignements, mais je pense qu'on est encore loin d'avoir réellement réalisé tout ce que ça pouvait vouloir nous dire. Parce que parfois, nous allons nous dire, ben l'esprit, c'est juste cette partie qui communie avec Dieu et c'est tout. Mais c'est pas ça. Jésus dit, soyez nés d'eau et d'esprit, ou soyez nés de l'esprit, car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, vous êtes un jour né de la chair, hein, vous êtes né physiquement, comme à chacun d'entre nous, puisque nous avons un corps. Donc ça, il n'y a pas de problème, on a cette partie physique ou charnelle, mais nous sommes appelés à être nés de l'esprit. Et à ce moment-là, vous avez besoin d'opérer en tant qu'être spirituel. Vous avez besoin d'apprendre à fonctionner comme étant un esprit, comme ayant au plus profond de vous-même ce principe de vie, on pourrait dire, cette essence même de l'existence. Parce que le corps sans esprit, ben, il ne vit pas, hein. Quand les gens meurent, qu'est-ce qui se passe? Leur corps, il est bien là, mais le corps tout seul, il ne sert pas à grand-chose. Enfin, il nous sert tant que nous sommes vivants, mais si le corps n'est pas animé, il ne sert à rien. Par contre, Dieu nous a créés et Christ nous appelle à naître de l'esprit de telle sorte que notre esprit anime ce corps et que maintenant ce corps soit utile à quelque chose. C'est avec le corps que nous allons agir sur la terre, nous allons accomplir des choses, que nous allons remplir la destinée divine pour notre vie, que nous allons nous épanouir, progresser et marquer notre temps aussi d'une certaine façon. Mais donc ici, ce n'est pas juste une histoire de « c'est vrai qu'il faut se repentir, laisser notre vie passer et puis accepter le message de Dieu et marcher avec lui ». Mais surtout, Christ nous dit « vous avez besoin de naître de l'esprit ». C'est-à-dire que vous avez besoin de réaliser ou de redécouvrir que vous n'êtes pas juste un corps, vous n'êtes pas juste une personne, vous avez besoin d'être esprit. Vous avez besoin d'opérer au niveau de votre esprit. Vous avez besoin d'être quelqu'un de spirituel et qui fonctionne en tant que tel. En fait, c'est un message d'éveil spirituel. Donc là, ce que Christ nous apporte et ce qu'il enseigne ici, ce n'est pas juste de changer de vie pour accepter une vie religieuse, entre guillemets, mais c'est surtout de permettre au Saint-Esprit de renouveler notre esprit et d'y mettre la nature de Dieu. On pourrait dire qu'il y a une partie de Dieu, il y a quelque chose de divin dans chacun d'entre nous. Nous sommes animés par ce souffle de Dieu. J'ai quelque chose au plus profond de moi-même. Enfin, c'est même étrange de mettre des mots dessus. Je me demande même comment je fais pour parler de ça, parce que c'est même des choses qu'on ne peut pas forcément expliquer, parce qu'à un moment donné, il faut simplement les ressentir et les vivre au plus profond de soi-même. Mais c'est même pas que nous avons en nous-mêmes, c'est que nous sommes esprits, avec des ressources, des capacités, des choses qui dépassent largement, encore une fois, notre mental et notre corps. Et il nous faut en prendre conscience et agir à partir de notre esprit. Vous savez, des fois, quand quelqu'un oublie quelque chose ou quand il fait une erreur, il va dire « je n'ai pas eu la présence d'esprit de faire telle chose ». On touche une vérité qu'on n'a même pas réalisée, mais pourtant, elle est bien là. Et c'est vrai, quand vous dites « je n'ai pas eu la présence d'esprit de faire telle chose », c'est vrai. C'est que si vous avez oublié de prendre votre sac ce matin, c'est que vous n'étiez pas pleinement présente au moment de partir de chez vous. Effectivement, vous n'aviez pas la présence d'esprit de prendre votre sac. Ou de faire autre chose. Et donc, parfois, nous avons des expressions où nous désignons quelque chose qui existe, qui est vrai, mais dont nous ne sommes même pas réellement conscients, et que nous n'avons pas intégré. Et on est exactement dans le sujet, c'est aussi simple que cela. Et Jésus même va donner une image, à un moment donné, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, avec cette parabole des vierges. Il y a des vierges sages, des vierges folles, que nous pouvons utiliser, c'est vrai, pour préfigurer le retour de Christ, ou la fin des temps, ou Jésus reviendra et puis il faudra être prêt, il faudra avoir de l'huile dans nos lampes. L'huile, en général, on dit que c'est l'onction du Saint-Esprit, donc il faudra être rempli du Saint-Esprit pour que lorsque Jésus vienne, nous puissions entrer avec lui dans la salle des noces et que nous ne soyons pas trouvés endormis et incapables de nous réveiller. Bon, pourquoi pas? Mais il y a derrière tout cela un message encore beaucoup plus profond et toujours un message d'éveil spirituel. Parce qu'une partie des vierges, bien certes, était allée pour ce repas des noces. Enfin, les 10 d'ailleurs, mais une partie n'avait pas eu justement la présence d'esprit de prendre de l'huile avec elle. Et vous pourrez remarquer que tout le monde s'est endormi. Les 10 se sont endormis. Donc le problème, c'est pas forcément que quelqu'un se soit endormi. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il nous faut pouvoir nous réveiller et avoir notre lampe allumée. C'est-à-dire, il nous faut reprendre conscience et être pleinement présent. Et j'aime bien cette image ici de cette parabole des 10 vierges, parce qu'elles attendaient quelque chose. Alors, elle était une des manières de saisir ou de comprendre c'est quoi être plus conscient, être plus présent. En fait, c'est une espèce d'état d'attente. C'est comme si vous attendiez quelque chose. Donc, vous êtes là, vous surveillez ce qui se passe autour, vous ressentez en vous cette impatience, vous êtes vraiment là, parce que vous attendez une chose. Et c'est presque un état dans lequel nous devrions être tout le temps. Comme attendant quelque chose, comme étant pleinement attentif à tout ce qui se passe autour de nous. Pleinement présent. Et Jésus leur dit, à travers cette parabole, au verset 13 de Matthieu 25, il dit « Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez, soyez conscientes et conscients. » Donc là encore, Christ envoie un message, il dit « Veillez, soyez présents. Ne soyez pas inconscient, ne soyez pas en pilote automatique, veillez, soyez attentif. » D'où l'importance d'être pleinement présent, de pleinement vivre les choses. C'est pour ça souvent qu'on passe à côté de beaucoup de choses, parce qu'on est déjà autre part, alors qu'il est en train peut-être de se passer quelque chose là tout de suite, et nous passons à côté parce que nous ne veillons pas, nous ne sommes pas attentifs, nous ne ressentons pas ce qui se passe. Jésus parle aussi d'adorer en esprit et en vérité. Alors pareil, en bon charismatique, on a dit, ça veut dire qu'il faut parler en langue, ça c'est en esprit, et puis en vérité, c'est en français ou dans votre langue maternelle. Pourquoi pas? Mais encore une fois, c'est beaucoup plus profond que ça. Adorer en esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes pleinement présent et conscient dans votre esprit, et que de votre esprit, vous faites monter quelque chose vers Dieu, et que en esprit, vous vous connectez à l'esprit. Dieu est esprit. Et là, il se passe des choses. Vous vivez quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une communion profonde Donc certes, vous faites monter quelque chose de vous-même vers lui, et puis finalement, de lui aussi, des choses vont se communiquer, et vous entrez dans cette communion, dans cette présence de Dieu, dans cette adoration profonde, où va se passer des choses. Mais comment vous pouvez adorer en esprit si vous n'êtes même pas conscient que vous êtes esprit? Vous savez, les chants que nous chantons, ça nous aide beaucoup, parce que ça permet qu'on dise la même chose en même temps. Et puis souvent, ça nous édifie, parce qu'il y a quand même des gens qui sont inspirés pour écrire des chants, et c'est très bien. Mais je dis et je maintiens, parce que plus j'y pense et plus je réalise que c'est vrai, que la vraie adoration se passe moins pendant les chants qu'en dehors des chants. La vraie adoration en esprit, c'est quand vous cessez de penser, de raisonner, que vous laissez juste en vous-même monter ce parfum, ce ressenti, ces sentiments pour Dieu, et que vous les exprimez. Et moi, il m'arrive souvent, de chanter des chants, que ce soit ici ou en tout cas à la maison, mais aussi de rester hors du chant et de simplement, toi quand j'ai ma guitare, de gratter ma guitare, simplement rester tranquille et puis avoir cette communion sans parler, sans réfléchir à ce que je vais dire ou ne pas dire. Hein. Des fois, on peut réfléchir à ce qu'on va prier parce qu'on veut que nos prières soient édifiantes et c'est très bien quand on est ensemble, mais l'adoration profonde, vous ne réfléchissez pas. Ce n'est pas quelque chose que vous intellectualisez ou qui est mental, c'est simplement vous laisser exprimer quelque chose du plus profond de vous-même. Et qui fait que vous ressentez la présence de Dieu, on appelle ça, hein, parfois on dit qu'on ressent la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau de votre esprit, vous êtes conscient de ce qui se passe dans le domaine de l'esprit. Pendant que peut-être quelqu'un qui est à côté ne comprend rien à ce qui se passe et peut-être s'ennuie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas, pour l'instant, ou à ce moment précis, présent, conscient. Donc, nous avons besoin de renaître, d'une certaine façon, à l'être, à la conscience, pour être pleinement présent. Que cette présence nous permettra de puiser dans ce que Dieu a mis en nous-mêmes et de l'exprimer, de le manifester. Quelqu'un qui est présent ou qui est conscient va être plus efficace dans ce qu'il fait. Parce qu'une fois encore, vous ne réagissez pas seulement avec vos schémas ou vos modèles mentaux, mais vous allez chercher au plus profond de vous-même. Et ce que vous avez en vous-même, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Et on va rajouter ici parce que c'est Dieu qui l'a mis. La vérité, elle est en vous, en chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que quand vous entendez une vérité de la parole de Dieu ou quand quelqu'un vous parle d'une vérité, quelque chose en vous vous dit « oui, c'est ça ». Parce que la vérité est en vous. Et quand vous entendez une vérité, elle rencontre cette vérité qui est déjà là. Elle vient simplement allumer la lumière. Donc si vous apprenez à être présent et à voir ce qui se passe plus profond de vous-même, là où la vérité est, où elle habite, vous allez être beaucoup plus dans la vérité, dans le juste, dans le vrai, même dans vos manière d'agir au quotidien, dans vos relations, plutôt que de s'arrêter à ce que je peux penser, qu'est-ce que je ressens au plus profond de moi-même. Et tout ça, ce sont des choses que parfois on a un petit peu mises de côté parce que ben voilà, il faut être très rationnel, il faut être très calculé, il faut que tout rentre dans un cadre donné, mais pourtant nous avons été créés comme ça. Et nous avons besoin de renaître à l'être. Nous avons besoin de retrouver cette conscience, cette présence, et pour réactiver tout ce qui est là au plus profond de nous-mêmes. Parce que vous l'avez en vous. Jean chapitre 4, verset 14, par exemple. Jésus s'entretient avec une femme à qui il va lui demander de l'eau à boire. Et au fil de la discussion, Jésus va enseigner cette femme sur une réalité profonde. Et il va lui dire que celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, moi Jésus, n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans l'éternité. Donc Jésus promet que celui qui viendrait à lui recevrait de cette eau que Jésus donne, son message, sa présence, son esprit, et que cette eau deviendrait en nous une source. Donc vous avez en vous une source. Luc 17, verset 21, quand Jésus parle du royaume de Dieu, et d'ailleurs à chaque fois, il dira, le royaume ne vient pas de façon à frapper les regards. Le royaume n'est pas de ce monde. Le royaume n'est pas de cette terre. Et Jésus dira, le royaume de Dieu est en vous. Alors certaines traductions disent au milieu, hein, parce que je vous rappelle que les traducteurs souvent essayaient d'interpréter un peu ça. Mais en réalité, les deux interprétations sont possibles. Hein. Et au milieu, ça peut être au milieu de moi. Parce qu'on a tendance à extérioriser le royaume. Et le royaume, si on regarde à la lumière du message de Christ, le royaume de Dieu n'est pas tellement quelque chose de physique, de réel. Enfin, si, c'est profondément réel, mais ce n'est pas physique. Ce n'est pas quelque chose de ce monde. C'est quelque chose du monde de l'esprit. Et Jésus dit, le royaume est en vous. Autrement dit, vous avez en vous le royaume de Dieu. Dieu a choisi de faire de nous son habitation en esprit. Paul dira aux chrétiens, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous? Paul, toujours, je crois que c'est aux Corinthiens, et leur dira, nous portons ce trésor comme dans des vases de terre. Donc certes, nous ne sommes peut-être qu'un vase de terre, mais il y a à l'intérieur un trésor, le royaume, la nature divine, les ressources divines, la puissance de Dieu, la capacité, la créativité. Tout ce qui peut nous être nécessaire, nous l'avons. Mais si nous ne sommes pas conscients et présents à nous-mêmes, bah tout ça, ça dort là au fond parce qu'on ne sait pas que c'est là, parce qu'on ne sait même pas qui on est. On sait juste ce qu'on a appris. Donc on n'opère que avec nos pensées et nos connaissances. Et pendant ce temps, au fond, il y a ce trésor. Éphésiens chapitre 4 nous parle de... Je vais un peu vite pour ne pas vous retenir, mais vous pourrez relire peut-être les passages pour vous. Nous parle de l'action de ce qu'on appelle les ministères dans l'Église. Ça aussi, vous savez, parfois, on s'est dit que voilà, ben, le rôle de l'Église... c'est d'être le royaume de Dieu ou de montrer le royaume de Dieu sur la terre. Alors, dans un sens, c'est vrai, mais pas avec ce qu'on en a fait. Et donc, on a tendance à se dire que, bah voilà, donc il y a des ministères, il y a des gens qui sont là un petit peu comme des dirigeants, hein, et voilà, qui sont le gouvernement, un petit peu comme on aurait peut-être un président et des ministères. Et puis, ils sont là, et puis les gens sont leurs sujets. Et puis, voilà, on est le royaume de Dieu, comme si c'était quelque chose d'extérieur. Mais ça n'est pas ça du tout. Le rôle principal de l'Église ou de l'action des ministères, Éphésiens 4, il est bien écrit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre des ministères, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la plénitude de la connaissance, et à la stature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc en fait, qu'est-ce qu'il est dit que nous sommes censés tous parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ? Paul parlera également de l'état d'homme fait. Donc le rôle de l'Église, ça va être plutôt d'amener chaque croyant à découvrir en lui-même ce trésor et à l'exprimer. Et je ne suis pas en train d'utiliser des versets pour défendre ma position. Je peux vous garantir que Dieu me rassure profondément avec sa parole là-dessus, parce que c'est vrai que ce sont des choses que je veux faire, que j'aime faire. Moi, mon cœur, mon désir, c'est pas... d'être le super pasteur et puis d'avoir des gens qui sont là et puis de faire des petits rituels religieux et de jouer à l'église et puis dire super, etc. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de vous voir vous épanouir, c'est de voir ce que Dieu a mis en vous s'exprimer et c'est de vous voir réellement opérer dans toute la plénitude, oui, parce qu'il parle de toute la plénitude et jusqu'à la stature parfaite, de ce que Dieu vous a donné. Ça m'intéresse pas de vous garder là et juste de vous lâcher trois versets puis de vous raconter trois petits trucs théologiques et de garder pour moi le prestige de connaître Dieu et d'être celui qui peut prier, qui peut amener la puissance de Dieu. Ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai beaucoup de respect pour tous les autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, nous sommes là pour, et je vais expliquer pourquoi Centre Zoé, parce que nous sommes dans un endroit, le centre, c'est aussi un endroit où il doit y avoir de l'action, un bouillonnement, quelque chose, avec ensuite un rayonnement. Zoé, de la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu, elle ne m'appartient pas à moi seul, elle nous appartient à tous et elle est là dans votre esprit. Et mon rôle, c'est pas de vous dire j'ai la vie de Dieu et je vais vous la donner. Mon rôle, c'est de dire vous avez la vie de Dieu dans votre esprit et vous avez besoin de l'exprimer. Ça, comme ça, c'est dit, voilà, exactement. Donc vous avez un potentiel à exprimer. C'est pour ça que j'ai pris le risque, c'est vrai, depuis 2-3 semaines, de rentrer dans des messages que certains auraient qualifiés de tendancieux, mais Christ était très tendancieux, vous savez. Et cette réalité de l'éveil spirituel, même si je reconnais moi-même avec beaucoup d'humilité que j'ai même parfois du mal à mettre des mots dessus, que peut-être si on l'écoutait juste en essayant de le comprendre intellectuellement, on pourrait se dire « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Mais essayez de ressentir les choses, de les recevoir dans votre esprit. Et on a besoin d'être éveillé. Vous savez, on parle beaucoup du réveil de l'Église, et je crois au réveil, mais le réveil qu'on attend là, avec des signes, prodiges et miracles, et des milliers de personnes qui vont venir, qui vont donner gloire à Dieu, peut-être, mais avant, il y a une réforme, Mais beaucoup de gens essayent d'opérer la réforme intellectuellement, ça ne fonctionnera pas. La réforme, c'est quoi? C'est là, le renaître à l'être. C'est-à-dire que d'abord, nous, l'Église déjà présente, nous avons besoin de réaliser le vrai message de Christ, qui est un message d'éveil spirituel. Et plus nous allons commencer à nous éveiller, et plus nous allons rendre possible ce réveil plus général que Dieu promet dans sa parole et qui doit se manifester, mais qui aujourd'hui ne peut pas se manifester si nous-mêmes nous ne sommes pas éveillés et présents et nous ne pouvons pas laisser jaillir ce que Dieu nous a donné. Vous avez en vous cette vie de Dieu, vous avez un potentiel à exprimer. Et plus vous prenez conscience de ces réalités-là et vous acceptez d'opérer dedans, qui ne remet pas en cause le fait que Dieu est tout-puissant, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné la vie et ce potentiel. Je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Mais j'ai une responsabilité. Comme je dis parfois quand j'enseigne, d'ailleurs actuellement à l'Institut sur la foi ou sur la prière, il n'est pas satisfaisant seulement de s'asseoir et de dire ben, « si Dieu fait, il fera, s'il ne fait pas, ben, tant pis ». Non, nous sommes responsables. Parce que Dieu nous a confié des choses et nous avons la responsabilité de les exprimer. Et nous avons la responsabilité d'accepter cet éveil spirituel et de progresser dans ce domaine-là. Comme ça, ce qu'il y a en vous, ça va prendre de plus en plus de place. Ça va s'exprimer de plus en plus. C'est quand Jésus dit « vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde », tout ça, c'est pas juste des jolis petits trucs en passant. Hein. Il y a une puissance derrière ces paroles-là. Comment vous voulez être sel de la terre? Comment vous voulez être lumière du monde? Cette lumière, elle est là. Elle est dans chacun de vous. Vous êtes sel de la terre. Vous êtes lumière du monde. Cette lumière qui est là, ce sel qui est là, il faut qu'il puisse s'exprimer. Exprimer cette nature divine, exprimer ce potentiel en étant conscient que vous êtes plus que juste ce corps, que juste ce mental et que Dieu a mis des choses en vous. Pouvez-vous noter pour vous en passant 1 Corinthiens 2, 11 où Paul explique, elle dit « Qui de l'homme connaît le mieux les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ?» Autrement dit, il dit que ce qui en vous connaît le mieux, ce qui est le mieux informé, ce qui est le plus capable, c'est votre esprit. C'est-à-dire votre nature profonde. Ce qui est le mieux à même de vous éclairer. Dans les proverbes, il est dit aussi que l'esprit de l'homme est comme une lampe. Donc ce qui est plus à même de vous éclairer, de vous amener dans une action juste, équilibrée, c'est votre esprit, votre nature intérieure, votre essence. Ce n'est pas votre mental. Oui, le mental est utile, mais il n'est pas tout. Ce qui est le mieux placé, ce qui est le plus éclairé, ce qui est le mieux qualifié en vous, c'est votre esprit, c'est votre nature spirituelle, c'est votre être le plus profond. D'où l'intérêt de le laisser s'exprimer. D'où l'intérêt d'aller puiser dans notre être le plus profond. On a vraiment besoin d'être plus présent, d'être vraiment attentif, mais là, maintenant, mais même dans tout ce que vous vivez. Et comment être plus présent? Bah, commencez à y toucher. Par exemple, dissociez vos conditions de vie de ce qui est vraiment votre vie. Ne vous enfermez pas dans la situation que vous vivez. Et ressentez pleinement, vivez pleinement les choses. Soyez là dans le présent justement, ressentez les choses, vivez-les pleinement. Soyez pas toujours soit dans le passé réfugié quelque part ou soit en train de vous enfuir dans l'avenir. Appréciez les choses. Soyez reconnaissant aussi. Sachez reconnaître quelque chose de bien. Ça, on a toujours tendance à voir ce qui va pas, mais reconnaissez ce qui est bien. C'est une manière d'être plus présent, d'être plus conscient de ce qui se passe. Dire tiens, ça c'est bien. Là, je me sens bien. Tiens, cette fleur, elle est jolie. Etc. Vous donnez une valeur à l'instant précis, à ce que vous rencontrez, à la situation que vous traversez. Observez ce qui se passe en vous. On avait fait un peu la dernière fois et refaites-le parfois pour vous. Vous vous installez confortablement, vous fermez les yeux, vous respirez tranquillement et vous calmez vos pensées et puis de ressentir ce qui se passe en vous, sentir votre présence. Qu'est-ce que je ressens? Même dans une situation, vous savez, avant de tout de suite répondre au risque d'aller trop vite, peut-être si vous avez l'occasion, isolez-vous juste quelques instants et ressentez qu'est-ce que je ressens au profond de moi-même. Pour justement faire être conscient de votre être entier et faire monter de votre être des choses, des réponses, des solutions, ce potentiel que vous avez. Prenez des moments de silence aussi, à juste profiter d'être là. Prenez aussi à dire ce que vous ressentez et à accepter ce que l'autre a à vous dire, mais sans forcément porter de jugement dessus. Mais ceci est une manière d'être, d'exister pleinement. Je ressens une chose, je peux l'exprimer. Je ne suis pas obligé d'y mettre du ressentiment, mais je peux exprimer ce que je ressens. Et aussi accueillir ce que l'autre ressent, ce que l'autre me dit, sans forcément sans porter de jugement dessus, simplement l'accepter, l'exprimer, mais aussi de reconnaître, je suis là, je vis, je ressens telle chose. Et tout ça sont des manières simples d'être présent, de nourrir cette conscience, de vivre pleinement, de vivre la vie en abondance. Alors que nous prenons conscience que nous acceptons d'être et d'exister pleinement tel que nous sommes. Nous acceptons de voir au-delà de ce que nous avons cru ou bâti depuis peut-être longtemps pour revenir à la puiser pleinement dans cette vie. Je déclare le retour à la vie, le réveil de nos vies, de nos existences. Je déclare que nous sommes conscients, nous sommes présents, que nous agissons et que nous ne réagissons plus seulement. Je déclare que nous ne subissons plus les circonstances, mais que nous les influençons, nous les provoquons, nous les créons. Je déclare que nous reprenons notre place, régner à partir de notre esprit, en étant conscients, présents, et en puisant dans ce trésor qui nous dépasse, qui est plus grand que nous-mêmes, le voir, de le recevoir, de l'accueillir. Et je déclare que nous allons puiser dans ce trésor, et que de plus en plus, ces ressources vont monter, se voir, s'exprimer. Nous allons passer du mental à l'être vrai. Nous allons passer de l'intellectualisation à l'expérience. Nous n'allons plus continuer à vivre seulement une illusion de vie, mais nous allons vivre pleinement, en essence, en profondeur les choses. Dans cet état de conscience, cet état de présence aussi, nous sommes plus enclins et plus à même de vivre une paix profonde. Parce que peu importe les tempêtes qui peuvent avoir lieu à l'extérieur, au plus profond de nous-mêmes, nous sommes toujours dans le calme et toujours dans la paix. Nous réussirons dans ce que nous entreprenons.
Cet enregistrement vous est offert sans frais par le programme Provision, une initiative du Centre Zoé avec Fabien Végel. Il est interdit de le vendre ou de le modifier. Pour tout renseignement, connectez-vous au www.provisiondevie.com.